survivre à l'austérité.
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA FM.
Depuis plus de 27 ans, Profil est la référence en rock progressif. Découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88.3 FM ou sur profilprog.com.
Salut tout le monde, ici Bruno Laberge, l'animateur du Polymath. Tout d'abord, je voudrais juste dire qu'un polymath, c'est une personne dotée d'une culture poussée, sérieuse et large. Joignez-vous à nous, Pascal Despins, à la recherche et à la réalisation, ainsi que moi-même, Bruno Laberge, à la narration et à la production. Les dimanches à 11h, sur les ondes de CKIA 88.3 FM.
Toute simplicité. Devais entreprendre de dire comment j'ai souhaité vivre ma vie au cours des dernières années, je surprendrais sans doute ceux de mes lecteurs qui sont au peu au fait de mon histoire présente, et je sidérerais certainement ceux qui n'en savent rien. Je me contenterai d'évoquer quelques-uns des projets que j'ai nourris. Qu'il pleuve ou qu'il vente, de jour ou de nuit, je me suis efforcé d'affûter la lame du temps et de m'en servir, qui plus est, pour tailler une encoche sur mon bâton de marche, de me tenir debout en ce point de rencontre de deux éternités, le passé et l'avenir, qui est très exactement l'instant présent, et de marcher sur ce fil. Vous me pardonnerez certaines obscurités, car mon métier recèle plus de secrets que ceux de la plupart des hommes. Mais ces secrets ne sont pas volontaires, ils sont inhérents à la nature même de ce métier. Je ne désire rien de plus que d'en dire tout ce que j'en sais et ne jamais écrire « Accès interdit sur ma porte d'entrée ».
Grande ourse, la cime des arbres, des ombres à la dérive, la nuit aspire le ciel, la lune boit lentement les reflets diamants. Léger, calme, heureux, l'âme en silence chante. Wonder, souvenirs et mon enfance. Nage dans les étoiles, limpide étang nourri de pluie. Tu as 100 000 ans, apprends-moi la vie.
Alors, bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler des modes de vie alternatifs. On va avoir un invité, Jean Ouellette, qui est du Cohabitat de Neuville. Bon, il va nous parler de leur expérience de Cohabitat, qui est, je dis que c'était des modes de vie alternatifs collectifs. La simplicité volontaire, c'est un mode de vie alternatif qu'on pourrait dire individuel. Mais on peut vivre cette expérience-là avec d'autres gens qui partagent les mêmes valeurs. Puis à ce moment-là, on est dans le contexte d'un mode de vie alternatif collectif. Alors, ça va être intéressant de parler à M. Ouellette à ce sujet-là. Avant ça, ben j'ai quelques lectures cette semaine, quelques événements aussi, puis une annonce. Alors, j'ai poursuivi ma lecture de la revue L'Inconvénient, ou probablement qu'on va faire une émission là-dessus, une réflexion sur le voyage. C'est le dernier numéro de L'Inconvénient, automne 2023. Peut-on encore voyager? Et il y a un article de Louis Hamelin. Louis Hamelin, qui est cet auteur aussi, qui est journaliste au Devoir, mais chroniqueur au Devoir, devrait dire. Puis aussi, c'est lui qui écrit le livre sur... Le compagnon de taureau à Walden, terrien, qui s'appelle Un lac le matin, que j'ai pas fini de lire, que je vais vous en parler quand je vais avoir terminé. Alors, je vous lis un extrait de son article dans L'Inconvénient, c'est une réflexion sur le voyage, et le titre de l'article, c'est « La consommation du monde ». Avant d'enfiler l'autoroute 10, l'aéronavette qui m'amène à Dorval est passée cueillir une dame à la porte de chez elle, à Saint-Élie-d'Orford, près de Sherbrooke. Décor typique à mort, le long d'une route de gravelle s'alignent des maisons assez vieilles en briques ou de constructions plus récentes en clin synthétique, mais toutes remarquablement espacées et entourées de vastes terrains plantés de grands arbres et souvent séparés par des rangées de ces derniers. Le bois commence au bout de la cour. La riante campagne de l'Estrie, avec ses forêts tenues en respect et bien encadrées, et ses champs fleuris qui accueillent parfois quelques chevaux, mais d'où les grands élevages et leurs odeurs de fumier sont à peu près absents, favorisent sans doute, par sa nature même, l'étalement urbain. Les gens qui habitent ces demeures ne présentent aucun des symptômes extérieurs de la richesse. Ils vivent pourtant dans un luxe d'espace inconnu sur d'autres continents. L'humain voyage, la ville s'étend. C'est ça. Alors, on va en parler, ça aussi, de la ville qui s'étend. Et il y a un lien, c'est intéressant, il fait un lien entre les deux. L'homme voyage, la ville s'étend. On voyage, souvent, c'est plus des vrais voyages, c'est du tourisme de masse qui va souvent détruire des endroits. Alors, on va avoir une réflexion là-dessus. Puis, justement, aussi, par rapport à l'urbanité, mouvement qui s'appelle le municipalisme, on va aborder ça, ce sujet-là, dans les semaines qui viennent. Probablement que j'aurai un invité pour nous parler du livre « S'adapter », c'est François-William Croteau, « S'adapter, demain, les villes résilientes ». M. Croteau, c'est intéressant, je vais vous lire l'endo du livre, ça dit tout. « Nombreux sont ceux parmi nous qui croient encore à la possibilité de maîtriser le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle, du moins jusqu'à un certain degré. D'autres, plus réalistes, ou peut-être mieux au fait de la nature humaine, n'hésitent pas à parler dès maintenant d'échec total. François-William Croteau, s'il se range plutôt du côté des seconds, fait toutefois figure de pragmatique en cela, qu'il espère encore nous préparer à l'après. » Bien au fait des tendances actuelles, Croteau nous rappelle que d'ici quelques décennies, tout au plus, la majorité de la population humaine résidera dans les grands centres urbains. Ces derniers, par ailleurs, se trouveront au cœur de la tourmente d'une crise climatique permanente dont les effets se font déjà sentir. Biodiversité, déminéralisation, transport et mobilité, agriculture urbaine, gouvernance et pouvoir de citoyens, les pouvoirs citoyens, ce ne sont que quelques-uns des domaines où l'établissement de mesures de transition permettra de renforcer les assises de nos villes en prévision des années difficiles qui s'annoncent. Alors, le titre, ça dit tout, s'adapter, on est rendu là. Il faut quand même continuer à essayer de réduire, mais la réalité de l'adaptation aussi, on doit y faire face. Hier aussi, j'ai été une sorte de lancement de livre de Maxime Pedneau-Jobin, qui est l'ancien maire de Gatineau, « Libérer les villes ». Alors, il y a quand même, disons, un peu de lumière dans ce qui se passe, parce que présentement, les nouvelles ne sont pas toujours positives, mais du côté des maires au Québec, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup plus d'espoir de ce côté-là, beaucoup de maires progressistes au Québec, des jeunes maires. Et ça aussi, je vais en lien avec le livre S'adapter, « Libérer les villes » que je vous recommande, de Maxime Pedneau-Jobin, qui est maintenant aussi un chroniqueur à la presse. Dans la même lignée, disons, un article dans Le Devoir de jeudi cette semaine, intéressant, « Meilleure qualité de vie, pire productivité ». Alors, on nous dit que la ville de Montréal, c'est une espèce de sondage qu'on fait, les grandes villes nord-américaines. Alors, on dit, alors que Montréal se distingue pour sa qualité de vie et son environnement, la métropole québécoise présente la pire productivité au niveau et le niveau de vie par habitant le plus faible des villes nordiques de taille comparable, de villes nord-américaines, excusez, de taille comparable, selon une étude de l'Institut du Québec. Par contre, elle fait pas mal meilleure figure au niveau de la qualité de vie. On dit un peu plus loin, si elle fait bonne figure au Québec, Montréal présente le plus faible PIB par habitant en Amérique du Nord, dans les grandes villes, avec un PIB trois fois supérieur. On dit que San Francisco a un PIB trois fois supérieur à celui de Montréal. Par contre, on dit que Montréal se distingue toutefois pour sa qualité de vie et trône au sommet du palmarès dans cette catégorie, notamment en raison d'un niveau d'inégalité et d'un taux de pauvreté plus faible grâce à une grande espérance de vie et à des logements plus abordables. C'est un atout indéniable pour attirer des talents et des investissements selon les gens qui ont fait l'étude. Ce qui est fascinant là-dedans, ça rejoint un peu notre propos ici à l'émission, c'est que malgré le fait qu'on a, au niveau économique, un niveau plus faible, le plus faible en Amérique du Nord, dans les grandes villes, c'est la ville de Montréal qui est reconnue comme ayant la meilleure qualité de vie. Alors, il y a vraiment un paradoxe. C'est là que ça rejoint un peu le message qu'on dit que une fois un certain seuil de, disons, de confort matériel atteint, c'est ailleurs qu'on va chercher des gains au niveau de la qualité de vie. Puis c'est quand même remarquable à Montréal que Montréal a la meilleure qualité de vie dans les grandes villes nord-américaines. Alors, c'était dans Le Devoir, là, pour ceux qui s'intéressent, dans Le Devoir d'hier, page B3. Cette semaine aussi, je suis allé voir une conférence de M. Jean-Marie Lebel sur Philippe Aubert de Gaspé. Jean-Marie Lebel qui travaille actuellement, ça c'est pas pour tout de suite, mais j'ai bien hâte de voir ça, une édition savante de Yankee au Canada, le périple que Taureau a fait là, entre à pied. Là, il est parti de Boston, mais il a marché. Quand il est parti de Boston, évidemment, c'était avec des transports, on pourrait dire, en commun. Mais il a marché de Québec jusqu'au Canyon Saint-Anne. Le récit de Taureau, c'est formidable. Et puis, M. Lebel est en train de travailler sur une étude, une édition annotée de Yankee au Canada. Ça va être vraiment intéressant. Et justement, il avait fait une conférence l'année dernière sur Taureau. Cette année, Philippe Aubert de Gaspé, j'étais curieux, mais M. Lebel est un conteur fabuleux. C'est vraiment extraordinaire de l'entendre. Et il nous a parlé de Philippe Aubert de Gaspé, puis c'est un personnage méconnu. Par contre, on devrait s'intéresser à lui et il nous recommande fortement de lire Les Anciens Canadiens. Puis il nous expliquait que les anciens Canadiens, c'était quoi? C'était les Canadiens d'avant la conquête. Alors, il nous parle de comment les gens étaient avant la conquête, parce que aussi, la conquête, ça a été un gros traumatisme là, pour nous, les Canadiens. Alors, très intéressant. Puis ce qui est fascinant aussi que Philippe Aubert de Gaspé, c'est qu'il est né à la même année que Louis-Joseph Papineau. Puis ils sont décédés la même date. Et d'ailleurs, ils se connaissaient. Puis ils ont deux parcours complètement différents. Mais il y a comme un lien entre les deux fascinant. Et d'ailleurs, je suis en train de lire, là, il y a une biographie extraordinaire de Papineau qui vient d'être publiée en deux gros tomes de 600 pages, pour ceux qui s'intéressent, de Mme Sicotte. Mais j'oublie son prénom. En tout cas, bref, très bonne conférence de M. Lebel. Puis, pour terminer, c'est un peu en lien avec notre invité qui s'en vient, on aura au Centre Frédéric Bach, le 30 novembre prochain, un cercle de discussion qui portera justement sur les modes de vie alternatifs. Alors, on prend une pause musicale. Pour retour, on va revenir avec M. Jean Nollet du Cohabitat de Neuville.
Il voulait et il pense, il espérait puis en parlait, il l'a pas fait, il a pas bougé, il l'a regretté, elle est partie. Puis il a perdu son temps, le temps ça court par en avant, il est toujours plus tard qu'on pense, il est toujours. Elle voulait, elle rêvait, elle priait, elle rien dit, elle s'est tue, elle l'a perdu, lui l'a jamais su. Elle a perdu son temps, le temps ça court par en avant, il est toujours plus tard qu'on pense, il est toujours plus tard qu'on pense. Par où tu regardes, laisse tes traces t'oublier. Si t'as quelque chose à faire, dis-le-moi, 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 dis-le-moi. Il fallait, fallait. C'était dit, c'était promis, la grande moitié presque signée. mais la mode passée ont oublié, changé d'idée, triste à pleurer, et ont perdu leur temps. Le temps s'accourt par en avant, il est toujours plus tard qu'on pense, il est toujours plus tard qu'on pense. Par où tu regardes, laisse tes traces, t'oublier. Si t'as quelque chose à faire, dis-les-moi, dis-les-moi, dis-les-moi. Il fallait, fallait. On voulait, on veut-tu. Si t'es prêt ou si t'es perdu, mets ta main dans la mienne, avançons dans le temps. Tu veux pas disparaître, moi non plus, moi non plus. Faut pas perdre en mourant, le temps ça court par en avant. Il est toujours plus tard qu'on pense, il est toujours. Faut pas perdre en mourant, le temps ça court par en avant. Il est toujours plus tard qu'on pense, il est toujours.
C'était Fred Pellerin de l'album Plus tard qu'on pense, puis c'était la pièce numéro un, Plus tard qu'on pense. Effectivement, il faut se souvenir qu'il est peut-être plus tard qu'on pense, et ça nous force à réfléchir sur nos modes de vie, sur comment on peut justement mieux affronter ou mieux s'adapter aux changements qui viennent. Alors, on a avec nous là, Jean Nollet qui va nous parler un peu d'une alternative là, pour les comment bien vivre. Alors, bonjour Jean, est-ce que tu es avec nous?
Ben oui, je suis avec vous, avec plaisir.
Bon, alors, on va quand même commencer par te présenter. Je n'ai pas, fait de présentation encore. Je disais que tu étais un des fonds... Je ne l'ai pas dit, mais en tout cas, tu es un des fondateurs du Coop Habitat de Neuville. Puis aussi, tu travailles pour Coop Carbone. Est-ce que tu peux nous parler juste un petit peu de ta démarche par rapport à Coop Carbone, puis on va revenir avec Coop Habitat après?
Ah ben oui, ça me fait toujours plaisir de parler de la Coop Carbone. En fait, la Coop Carbone, c'est une coopérative de solidarité à but non lucratif qui a pour mission la lutte au changement climatique en appuyant la mise en œuvre de projets collaboratifs. Fait qu'on est présent dans le secteur de la mobilité durable, on est présent en agriculture, en énergie, avec un biogesteur agricole coopératif qu'on a construit à Warwick avec des producteurs agricoles de la région. Et puis autrement, ben, on accompagne les organisations qui veulent réduire leur empreinte carbone, notamment en les appuyant si elles ont besoin là, pour utiliser le marché du carbone. Donc, on a une mission large, puis on est actif largement dans divers secteurs économiques pour aider à la mise en œuvre de projets collaboratifs qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre.
On peut dire que tu es du bord des solutions, là, c'est...
clairement. C'est pas parce qu'on voit pas les problèmes, au contraire, on les voit, mais on innove et on innove socialement dans des façons de faire pour arriver justement à proposer des solutions.
D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit là, Demain, le Québec, par les gens de la Fondation David Suzuki qui disait j'avais vu une présentation, puis il disait qu'il avait répertorié une grande quantité de projets. On ne réalise pas qu'il y a de projets de gens qui travaillent pour la transition écologique, on peut dire. Puis ça fait du bien, là. Ça remonte le moral. Ça compense un peu pour toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend, de savoir qu'il y a plein de gens qui sont à l'œuvre pour travailler dans la solution, là.
C'est sûr, c'est sûr. Puis on a besoin de tout le monde pour faire une différence. Fait que... on n'évitera pas des changements climatiques. On va avoir besoin de s'adapter, mais tous les efforts qui vont être réalisés vont participer à faire une différence, puis ça va avoir un impact sur les vies de millions de personnes.
Et justement, là, juste une petite parenthèse, là, hier, quand je suis allé à la présentation de Maxime Pedneau, il y avait notre maire qui était là, le maire Marchand. Puis ça aide aussi. Il y a vraiment un lieu d'action là, qui est le monde municipal. Là, on va revenir là-dessus parce que ce que les écologistes disent, et, face à l'éco-anxiété, la solution pour combattre l'éco-anxiété, c'est s'impliquer, faire quelque chose. Et le monde municipal, il y a vraiment quelque chose à explorer de ce côté-là. Mais là, on n'est pas dans notre sujet. On va revenir dans le cohabitat. Alors, là, en gros, peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est le cohabitat de Neuville?
Ben oui, en fait, à la base, c'est tout simple. Hein? C'est l'idée de se mettre ensemble à plusieurs et de partager des ressources. Et puis, dans ce cas-ci, ce qu'on fait, c'est on a une terre. On est 12 ménages, chacun avec sa maison privée, et puis on a en commun, comme si on était en mode condo, au lieu d'avoir une cage d'ascenseur ou un hall d'entrée en commun, bien dans notre cas, ce qu'on a en commun, c'est la terre, l'érablière, la cabane à sucre, les tracteurs, et puis une maison commune pour se rencontrer et puis avoir des activités ensemble. Fait que c'est un lieu qui se veut, où on veut, dans le fond, créer une communauté de gens qui s'entraident, qui se prêtent des choses, qui viennent en aide dans toutes sortes de tâches. Et puis, ça prend la forme, comme je vous l'ai dit, là, de partage de bâtiments, de la terre, mais aussi maintenant de partage des voitures. Fait que... Bon, j'ai résumé ça, là. Je vais te laisser aller, Jacques. Ben, tu as peut-être d'autres questions pour préciser des éléments.
Oui, bien, écoute, j'ai été à votre inauguration, puis j'ai été émerveillé. C'est extraordinaire. C'est vraiment un beau projet. C'est très beau. Puis, ce qu'on se disait là, avant l'émission, c'est que c'est un bel exemple de simplicité volontaire. C'est que la simplicité volontaire, c'est pas de vivre dans la misère, c'est de mieux vivre, c'est d'améliorer notre qualité de vie. Mais il y a un paradoxe, c'est qu'on améliore notre qualité de vie, mais ça coûte moins cher. Alors, et une des façons qu'on réduit le coût, qu'on devient moins esclave de la consommation, c'est de se réunir, de mettre nos ressources ensemble.
Ben, tout à fait. Pour nous, c'est un peu... retourner à certains égards à ce que pouvait être la vie il y a quelques décennies où on était dans une logique un peu moins, beaucoup moins individualiste et où spontanément on partageait davantage. Fait que ça se manifeste dans un tas de petites choses, mais dans le fait, par exemple, que des enfants peuvent être gardés par les voisins, dans le fait qu'on peut partager des repas, quand quelqu'un a besoin d'aide, il lève la main, puis il y a du monde autour pour donner un coup de main. Alors, ça rend la vie plus douce, plus facile. Et puis, on sort de chez nous, puis on rencontre nécessairement des amis avec lesquels on a envie de jaser. Donc, ça fait en sorte, effectivement, que à bien des égards, ça peut coûter moins cher. Mais ensuite de ça, ça fait en sorte que la vie est simplement plus facile. On n'est pas toujours dans des rapports marchands. On est souvent dans des rapports simplement amicaux, d'entraide, où chacun peut faire état de sa générosité. Fait que on retourne à une certaine base dans les relations humaines. C'est ce qu'on vise à faire.
Bien, c'est ce que je disais tantôt aussi, c'est que la simplicité volontaire, c'est qu'on vit en fonction de certaines valeurs. Maintenant, ça se fait individuellement, là, c'est des valeurs qu'on adopte individuellement, puis là, parfois, ben, on va côtoyer des gens qui n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs, puis surtout, on va vivre dans une société qui n'a pas tout à fait les mêmes valeurs que la simplicité volontaire. Ça évolue, mais c'est encore un peu marginal, là. Mais là, ce qui est la beauté, c'est que là, on peut faire ça, vivre la simplicité volontaire avec d'autres personnes qui croient à ces valeurs-là. Puis là, je pense, d'ailleurs, vous autres, vous, vous, Ben, vous avez pas le choix. Là. Vous avez une sorte de je n'aime pas l'expression charte des valeurs parce que ça a été galvaudé comme expression, mais vous avez comme un tableau des valeurs, disons, que vous devez partager ensemble pour pouvoir vivre cette expérience-là. Là.
Oui, puis ces valeurs-là sont affichées, sont claires. Bon, évidemment, on parle de partage, d'entraide, d'écologie, de simplicité volontaire, d'authenticité, de créativité, pour en nommer quelques-unes. Puis, ben, c'était présenté au départ à tous les potentiels intéressés par le projet. Fait que ceux qui arrivent dans le projet ont pris connaissance de ce qu'étaient les valeurs qu'on espère vivre au Cohabitat, et puis s'ils ont voulu embarquer dans le projet, et si on les a retenus, c'est parce qu'on avait le sentiment qu'il y avait des affinités de ce côté-là. On n'est pas tous pareils, on met pas tous l'emphase nécessairement sur la même valeur au même moment, mais il reste que d'avoir cette communauté de vue-là entre nous, ça facilite beaucoup les choses.
Oui, nous autres, dans Simplicité volontaire, je parle souvent des valeurs postmoderne. D'ailleurs, on avait M. Pigeon en entrevue. Michel Pigeon, qui était l'ancien recteur, qui a fait une étude là, sociologique, a fait un doctorat en sociologie dernièrement sur ça, les jeunes et les changements climatiques. Puis les jeunes dans le monde moderne adoptent les valeurs postmodernes qui sont, en fin de compte, et pour résumer, là, des valeurs où on privilégie la qualité de vie par rapport à ce qu'on pourrait appeler la surconsommation. Et, j'ai l'impression que c'est ce que vous incarnez là, de votre côté. Mais lorsqu'on va... oui, tu veux dire quelque chose là-dessus?
Ah ben, j'allais simplement dire oui, puis dans les faits, tout le monde n'est pas à la même place non plus. Et puis, de notre côté, on se perçoit tous comme étant en cheminement. Et puis, ce qui est très important pour nous, c'est de pas être dans le jugement comme si on avait la vérité puis que les autres devaient nécessairement adopter les mêmes comportements que nous. On peut tous avoir des valeurs similaires puis avoir des stratégies différentes pour les respecter. Et puis, faut le reconnaître. Puis il faut s'accepter là-dedans, puis il faut qu'on accepte nous-mêmes nos contradictions. Parce que il n'y a personne de parfait, puis il n'y a personne qui est capable de vivre intégralement les valeurs qu'il porte sans que de l'extérieur on puisse avoir à l'occasion l'impression qu'il y a quelque chose de contradictoire dans le comportement d'une personne qui affiche une valeur. C'est que on cultive l'idée de pas juger les autres là-dedans.
Oui, bien, justement, M. Pigeon, on a parlé de ça, c'est qu'on a des valeurs, disons, des valeurs qu'on veut mettre de l'avant, qu'on veut vivre, mais il y a toujours un écart entre notre valeur qu'on veut vivre puis concrètement, comment ça se passe. Il y a toujours un écart entre les deux. Mais nous autres, quand on parle de Simplicité volontaire, on dit toujours il n'y a pas de recette unique. C'est chacun sa recette, mais il y a comme une direction générale qui sont les valeurs, les nouvelles valeurs qui nous guident. Mais après ça, oui, chacun a son parcours, puis il faut respecter. Là, sans ça, c'est impossible. Là. Mais on va arrêter là-dessus. On va prendre une pause musicale. Pour retour, là, je vais te demander par rapport à d'où ça vient, parle-nous de l'histoire là, du Cohabitat. Ça comprend une pause musicale, puis on revient avec... on va poursuivre avec Jean Nollet du Cohabitat de Neuville.
Être ami du temps qui file, certains choisissent le difficile, d'autres se contentent de l'inutile, d'autres se contentent de l'inutile, pour assécher larmes dociles, ou goûter enfin être fragile. Je collectionne les inutiles. Je collectionne les inutiles. Pour gagner berge tranquille. Après autant d'espoir futile, je me blottis dans l'inutile. Je me blottis dans l'inutile. La 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 la. La la la. Le temps qui danse, de l'impossible à l'espérance, viennent les choses sans importance, viennent les choses sans importance, pour oublier longue souffrance et retrouver seconde enfance. Il y a les joies sans importance. Il y a des joies sans importance. Pour mieux guérir après l'absence, reprendre de large avec confiance. Je donne aux fleurs leur importance. Je donne aux fleurs leur importance. La 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 la. Trop jeune pour dire bonsoir. Déjà j'ai fait mon purgatoire. Je n'ai pas peur du dérisoire. Je n'ai pas peur du dérisoire. J'attends l'amour, je vis l'espoir. Une nouvelle fois je veux y croire. Et peu m'importe le dérisoire. Et peu m'importe le dérisoire. Je refais ma vie à tous les soirs. Je veux renaître dans sa mémoire. Je chante la gloire du dérisoire. Je chante la gloire du dérisoire. La 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 la.
Alors, c'était Jean Marc Aurel de l'album Jean Lamoureur. Puis c'est encore une fois la pièce Jean Lamoureur. Alors, justement, Jean, On va continuer avec Cohabitat de Neuville. J'aimerais que tu me fasses la petite histoire, là, d'où ça part, tout ça, ce projet-là, comment ça s'est né, puis voilà, l'histoire du projet, en gros.
Ben, je pense que ça part, ça part clairement de moi et ma conjointe, qui chacun de notre côté, depuis le début de la vingtaine, on rêvait de quelque chose comme ça, d'une communauté, de se retrouver en gang, de s'entraider. De mon côté, j'ai voyagé en Amérique latine. Hélène a vécu un projet écologique dans la Haute-Mauricie. Et puis, ça nous a donné le goût de vivre ou de revivre ce sentiment-là, d'être en communauté avec des gens avec qui on partage non seulement du temps, des objets, mais aussi des valeurs, puis un projet de vie. Et puis, ben, je pense que chacun de notre côté, on a été confronté à la vie, puis on a un peu mis ça de côté pendant un temps. On s'est trouvé, Hélène et moi, il y a une douzaine d'années, on s'est partagé nos rêves, puis on a décidé d'essayer d'avancer dans cette direction-là. Ça nous a amené à participer à un projet, notamment qui s'appelait Cohabitat Limoilou. Et puis, bon, ben, au bout d'un an et demi, deux ans, on a constaté l'échec, mais on a appris des choses de cet échec-là. Et puis, notamment que essayer de partir un projet avec 25 personnes en même temps pour essayer de tout définir, de trouver un lieu, puis c'était, en tout cas, ça paraissait pas vraiment réaliste. Donc, on a cheminé comme ça. Et puis, en cours de route, on jasait avec des amis, on a lu, on a partagé des lectures sur le sujet avec des amis, et puis on a essayé de partir quelque chose pour arriver au constat que finalement, c'est assez difficile, des fois à plusieurs, de s'entendre sur quelque chose en particulier, notamment un lieu. Quand on cherchait un lieu, on constatait que, bon, ben, chacun, avec ses préférences, peut être amené à aimer ou ne pas aimer un lieu en particulier, puis ça devenait difficile d'avancer avec le projet. Avec Hélène, à un moment donné, on s'est dit, bon, ben, si on veut que ce projet-là se réalise, on dirait qu'il va falloir que quelqu'un fasse un pas, prenne une décision, puis il semble y avoir personne de prêt à le faire. Donc, ça devrait être nous si on veut que ça arrive. Et puis, on a décidé d'acheter une magnifique propriété à Neuville, où est toujours située une maison ancestrale et où il y avait possibilité de lotifier, donc de construire d'autres maisons. Et partant de là, bon ben, on a mis toutes nos économies dans la balance, on a emprunté au maximum, on a pu acheter la propriété et puis on a décrit le projet auquel on rêvait, on l'a fait connaître et puis graduellement des gens intéressés se sont joints au projet et ont participé à sa construction. Je pense que c'est peut-être le résumé là, qui me vient le plus aisément à l'esprit au moment où on se parle.
D'ailleurs, je l'ai dit en début d'émission, là, pour ceux qui s'intéressent, parce que là, aujourd'hui, comme on va effleurer en gros là, le sujet, c'est quoi les cohabitats et tout ça, mais ceux qui voudraient aller un peu plus en profondeur sur le détail de tout ça, on va avoir un cercle de discussion le 30 novembre prochain au Centre Frédéric Bach. Et puis, c'est justement ta conjointe Hélène là, qui va être là pour présenter le projet répondre aux questions. Puis moi, je vais animer la discussion. On va échanger là-dessus. Alors, pour ceux qui s'intéressent, c'est le 30 novembre prochain. Maintenant, toi, justement, encore petite parenthèse, tu me disais que tu serais à Dubaï pour la COP avec Coop Carbone. Tu sais.
Effectivement, oui, c'est le cas.
Ça fait que c'est pour ça que tu ne pourras pas être là pour le cercle de discussion
ben,
le
oui.
30 novembre. C'est quelque chose.
J'espère que tu trouves que c'est une bonne raison.
Oui, parce que on va en parler du voyage, mais on dit. Moi, je pense, d'ailleurs, M. Pigeon, c'était intéressant. Je reviens avec M. Pigeon, qui était mon invité il y a deux semaines, qui a fait une thèse de doctorat sur les valeurs des jeunes et les jeunes et les changements climatiques. Puis je disais qu'il nous disait, c'est pas lui, pour moi, c'est lui qui il nous expliquait que les valeurs des jeunes, là, c'est clairement, les jeunes sont rendus dans les valeurs postmodernes. Ils s'intéressent à la qualité de vie. Et, par contre, le voyage est une valeur importante chez les jeunes. Et, et je pense aussi, tu sais, tu parlais de ton expérience en Amérique latine, c'est qu'il faut, comme dans n'importe quoi, il va faut trouver un juste milieu, un équilibre. Et, tu sais, abolir le voyage complètement, moi, j'ai les plus belles expériences de ma vie, souvent, c'était des voyages. Fait qu'abolir complètement le voyage, mais ce qu'il faut, c'est réduire les voyages, d'en faire moins, réduire le tourisme de masse, là. C'est des luxes qui sont pas écologiques, là. Les gens qui vont deux semaines, je sais que c'est dur l'hiver au Québec, je le reconnais, mais les voyages dans le sud à chaque hiver, se faire griller sur la plage, c'est pas un voyage, ça. C'est du tourisme de masse. Hein. Un voyage qui nous nourrit, qui nous fait grandir, ben c'est faut y aller plusieurs semaines. Puis il faut aller rencontrer les gens, pas aller dans des tout inclus où on mange de la même nourriture qu'ici. Là. Alors comme là, ben exemple de la COP, ça c'est des voyages à mon avis qui sont pertinents là, parce que on parle du plus grand défi de l'humanité actuellement. Alors c'est pas rien là, on se déplace pour ça. Je pense qu'on peut faire une exception. On te pardonne pour ton voyage.
Merci. En passant, de ce côté-là, ben, je le mentionne, là, nous, à la Coop Carbone, bon, ben, on est présent sur le marché du carbone. Fait que c'est tout naturel pour nous de dire, bon, ben, si on émet du fait d'un voyage, ben, on va compenser nos émissions via une réduction de gaz à effet de serre qui a lieu. Par ailleurs, puis dans notre cas, bon ben c'est des réductions de gaz à effet de serre qui sont réalisées au Québec, qui viennent compenser pour ces émissions-là. Fait que je sais que c'est un sujet qui porte à controverse, mais en même temps, c'est dans certaines situations, quand on peut pas réduire les émissions de gaz à effet de serre, une alternative intéressante.
Ouais. Puis ben c'est ça. Là, dans ton cas, c'est particulier. On ne peut pas dire que c'est un voyage comme aller en Amérique latine. Là. D'ailleurs, quand tu es allé en Amérique latine, j'imagine que tu n'es pas allé une fin de semaine. Là.
Ah, mais c'était des voyages qui duraient des mois à ce moment-là. C'est ça, là. Effectivement. C'était un voyage humanitaire. Là.
Vrais voyages. Là.
Mais je ne peux pas dire que je n'ai pas fait des faux voyages dans ma vie aussi. Là.
Ah,
donc,
chacun
encore là. Mais... Malgré l'essentiel de ma vie consacré à la lutte au changement climatique, il m'arrive de vivre des contradictions. Donc, il faut aussi reconnaître ça, se pardonner ça, puis ne pas être trop dans le jugement par rapport aux autres. C'est difficile de juger les besoins des autres.
Très difficile.
L'importance pour eux de tel ou tel truc.
Ouais. Faut pas juger. Mais il faut juste au moins y réfléchir, puis au moins regarder... chacun a le droit de vivre, puis nous autres, on n'est pas un mouvement moralisateur, le simple, c'est volontaire.
Ah oh, oui, c'est ça. Puis on peut se désespérer de où est-ce que ça nous mène tout ça ensemble, mais cibler des individus, habituellement, c'est pas très porteur. Donne pas le goût aux gens d'embarquer dans la mouvance s'ils se sentent jugés ou qu'on les culpabilise.
Absolument. Faut pas aller de ce côté-là. Je suis d'accord avec toi. Ça fait qu'on va prendre une dernière pause musicale. Puis au retour, je voudrais plus qu'on aborde des questions plus de philosophiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres? D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé de voir, là, il y avait des enfants qui étaient là dans votre... Et puis je me disais, wow, pour des enfants, c'est comme paradisiaque, là, comme expérience de vie. Alors, un peu des réflexions philosophiques sur l'expérience de cohabitat. Ça fait qu'on prend une pause musicale, puis au retour, il va nous rester 3-4 minutes là, pour conclure, puis avoir quelques réflexions philosophiques. Alors, à tout de suite.
Parfait.
C'était la magie des bols tibétains. Jimmy Thériault, la magie des bols tibétains, la pièce Inspiration. Ben c'est ça, là. Comme je disais, pour ceux qui voudraient avoir parce qu'il y a, comme tu en as parlé un petit peu, mais on n'a pas le temps d'aborder ça à l'émission, là. Tout, il y a beaucoup d'enjeux ou de difficultés techniques, de logistique, comment monter un genre de projet comme ça. Et pour ceux que ça intéresse, comme je disais, c'est le 30 novembre au Centre Frédéric Bach. Ça va être annoncé, j'imagine, sur le site Internet des Amis de la Terre. Et alors là, on pourra aborder les questions techniques et logistiques pour réaliser ce genre, un genre de projet comme ça. Mais là, je voudrais aller plus dans le philosophique, le vécu. Et on peut commencer par ça. J'ai vu que vous aviez un certain nombre d'enfants là, sur le site. Et je me disais, mon Dieu, ces enfants-là sont vraiment chanceux de pouvoir vivre une enfance comme ça, là, avec d'autres amis, dans un endroit qui, disons-le, carrément bucolique. Là. Alors, c'est ça. Parle-nous un peu de ça, le vécu humain de votre expérience.
Bien, merci beaucoup. Puis c'est une belle introduction parce que, quelque part, c'est un projet qu'on réalise, oui, pour nous, mais pour d'autres personnes et pour des enfants. On essaie de construire quelque part en mini la société dont on rêve. Fait que la société dont on rêve, on la rêve pour nous, mais on la rêve aussi beaucoup pour les générations futures. Moi, j'aurais beaucoup aimé que mes enfants puissent grandir dans un contexte comme celui-là. Malheureusement, ben, la vie, comme tout le monde le sait, fait en sorte qu'à un moment donné, on est attiré par des perspectives d'emploi, les opportunités. On se sépare de nos amis, puis on s'en va dans des lieux différents, et puis on reconstruit notre vie sociale un peu comme on peut. Cette question-là, un peu philosophique, de retour sur les valeurs, m'amène à peut-être à préciser deux choses importantes qu'on a apprises dans le processus de construction du cohabitat. C'est que on a réalisé, puis c'est pas quelque chose qu'on savait pas, mais ça a été, on l'a réalisé de façon plus concrète, c'est qu'on vit dans une société où la confiance n'est pas très présente en l'autre. En fait, on a même des expressions qui sont pratiquement entrées dans le langage populaire, qui font consensus, qui vont dire, par exemple, que ça prend du temps pour faire confiance à quelqu'un, puis c'est rapide de perdre la confiance. Et ça, on entend ça régulièrement, et puis c'est devenu on l'entend tellement régulièrement que c'est devenu presque normal de dire que c'est long avant de faire confiance en quelqu'un. Bien, nous autres, au cohabitat, on est arrivé au constat que pour qu'on arrive à bien vivre ensemble et à construire une communauté ensemble, il faut avoir un postulat de base qui est différent. Il faut d'abord être en confiance. D'abord faire confiance à la vie et puis être dans une logique où perdre la confiance, ça prend du temps parce qu'elle est là d'emblée. Si on n'est pas dans une logique comme celle-là, on s'en va vers la catastrophe. Puis ça se décide pas. Les gens ont intégré une façon de penser ou une autre. Mais pour nous, pour construire le cohabitat, c'est devenu clair à partir d'un certain moment donné que si on voulait y arriver, ben il fallait qu'on réunisse des gens qui étaient capables de faire confiance d'emblée. Parce qu'il y avait plein de risques à prendre pour arriver à construire ce projet-là. Ça, c'était une chose. Et l'autre chose, qui va un peu dans le sens de ce que disait la citation de Thoreau au départ, le texte de Thoreau que tu lisais au départ, ben c'est que il faut être capable de laisser aller. Parce qu'on n'a pas des visions exactement semblables sur tous les points. Ici, on a 21 personnes, parce que ça, c'est le nombre d'adultes au cohabitat, 21 personnes qui pensent qu'ils ont la vérité et qui tiennent à ce que les stratégies qui vont être employées par le groupe soient leurs stratégies à eux, ben on s'en va aussi dans le mur. Donc, il faut que tout le monde soit capable de mettre de l'eau dans son vin, qu'on soit capable de lâcher prise, de laisser aller, puis de revenir à l'essentiel. Mais Jean... Si on n'est pas capable de faire ça, on va avoir des gros problèmes.
Mais malheureusement, notre émission est terminée. On a fait le tour. C'est drôle parce qu'on boucle la boucle aussi. Tu as parlé de taureau, puis... au début, je disais aussi, je ne désire rien de plus que d'en dire tout ce que j'en sais et ne jamais inscrire accès interdit sur ma porte d'entrée. C'est drôle parce que c'est justement ça, la confiance. On barre nos portes, hein, aujourd'hui, là, on barre nos portes, mais jamais inscrire accès interdit.
Au cohabitant, on ne barre pas nos portes.
Accès interdit, c'est ça. La porte est ouverte. Ça fait que, justement, pour ceux qui voudraient, je le répète, là, c'est le 30 novembre prochain, qui voudraient voir qu'est-ce que c'est ce projet-là. Vous êtes invité au Centre Frédéric Bach. Puis je te remercie beaucoup, Jean. C'était très apprécié pour ta présence ce matin. Alors, je te souhaite une
belle soirée. C'est un plaisir, Jacques. Puis je suis sûr que vous allez avoir du plaisir pour ceux qui vont y être à rencontrer Hélène, parler et l'entendre parler de sa vision du cohabitant.
Bien, merci beaucoup. Puis à une prochaine, peut-être.
Très bien. Ben, au plaisir. Au revoir.
Bonne semaine, tout le monde.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Ta cafetière expresso vient de rendre l'âme? Pas de panique. Depuis plus de 30 ans, Sobab est l'expert en cafetière expresso. Ses techniciens chevronnés sauront réparer ta précieuse machine. Café Sobab, une passion qui nous réunit.